Chère Amélie Nothomb, merci pour vos encouragements du 30 avril. Sherazade va bien, ne vous inquiétez pas. Si je ne vous parle plus d'elle, c'est parce que rien n'a changé de ce côté-là. Nous avons reçu des nouvelles de quelques soldats qui étaient rentrés au pays il y a 2 mois. Elles sont alarmantes. Les maux psychologiques et physiques dont ils souffraient ici, loin de s'atténuer, ont empiré. Des médecins les surveillent en leur parlant de leur réinsertion. Ils n'emploieraient pas un mot différent si nous sortions de prison. Et il semblerait que les extolars se réinsèrent mieux. Ils sont moins étrangers que nous ne le sommes devenus. Personne n'est assez fou pour vouloir revenir en Irak, mais les gars disent que leur vie n'est plus aux USA. Le malheur est qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller. D'ailleurs, le problème n'est pas le lieu. Ils disent qu'ils ne savent plus comment vivre, qu'ils ne savent plus vivre. 6 années de guerre ont effacé tout ce qui précédait. Je comprends. Je pense vous avoir écrit à plusieurs reprises que je souhaitais rentrer en Amérique. À présent, je me rends compte que je vous disais ça comme une évidence, mais que je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Que vais-je retrouver au pays ? Rien, ni personne, à part l'armée. Mes parents ont honte de moi. J'ai perdu la trace de ceux qui furent mes amis, à supposer qu'une misère partagée constitue une amitié digne de ce nom. Et n'oublions pas le détail de mon poids. A-t-on envie de revoir des gens quand on a grossi de 130 kilos ? 130 kilos. Si je pesais 130 kilos, je serais déjà obèse. Or, je ne pèse pas 130 kilos, j'ai enflé de 130 kilos. C'est comme si j'étais devenu 3 personnes. J'ai fondé une famille. Sherazade et moi, nous avons eu un enfant. Tout cela serait charmant si je ne constituais pas cette famille à moi seul. Salut les gars, je vous présente ma femme et mon gosse. Ils sont bien au chaud, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les admirer, j'ai préféré les garder en moi. C'est plus intime, c'est plus facile aussi pour les protéger et pour les nourrir. Je ne vois pas ce qui vous étonne. Il y a des femmes qui allaitent leurs enfants, moi j'ai décidé d'alimenter ma famille de l'intérieur. Bref, pour la première fois, je découvre que je n'ai pas envie de rentrer. Je déteste être ici, mais j'y ai quand même un cadre de vie et des relations humaines. Et surtout, en Irak, on sait qui je suis. Je ne veux pas connaître l'expression de mes parents quand ils me découvriront. Je ne veux pas entendre ce qu'ils diront. Ce qui me sauve, encore une fois, c'est mon projet artistique. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. C'est la seule dignité qui me reste. Vous croyez que mon père et ma mère comprendront ? Bon, je ne devrais pas me poser cette question. On n'est pas artiste pour être compris de ses parents. Il n'empêche que j'y pense. J'ai peur qu'ils se moquent de moi. Si j'avais un agent ou quelqu'un de ce genre, je me sentirais moins ridicule. Il n'y a pas longtemps, vous étiez aux États-Unis. Auriez-vous rencontré là-bas des gens qui pourraient m'aider ? Connaîtriez-vous une galerie d'art à New York ou à Philadelphie ? Ou une personne influente au New York Times ? Désolé de vous embêter avec ça. Je ne sais à qui d'autre le demander. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 4/5/2009.
Je haussai les yeux au ciel. Le soldat n'était jamais que le 2500e à s'imaginer que j'appartenais à un réseau de relations publiques à échelle mondiale et dans tous les domaines. Tant de gens voient en moi la personne providentielle qui va pouvoir les introduire dans les milieux les plus sophistiqués ou les présenter à des êtres inaccessibles. Une bonne sœur belge m'a un jour écrit pour me dire qu'elle voulait rencontrer Brigitte Bardot. Non seulement sa requête lui paraissait très naturelle, mais il allait de soi, aux yeux de cette religieuse, que j'étais la personne à contacter pour la réalisation de son rêve. J'ai déjà reçu des lettres d'individus me priant de les recommander auprès d'Amélie Mauresmo, de Sharon Stone et de Jean-Michel Jarre. J'aimerais comprendre. Qu'on me prête ce carnet d'adresses m'agace. Qu'on ne cesse de me demander des services énormes me sidère. Je n'oserais pas, moi, faire de telles requêtes à quiconque. Je n'y penserai même pas. Confondre une chose aussi bon enfant que le courrier des lecteurs avec une agence de placement ou avec du clientélisme est d'un singulier mauvais goût. J'aimais bien Melvin Maple. Je le trouvais différent. Le voir adopter des manières aussi communes me navra. Au moins, se déclarait-il désolé de m'embêter avec ça. Voilà qui me changeait de certaines formules ahurissantes comme « J'ai pensé que ça vous amuserait de m'aider » ou du non moins authentique « Appuyer ma démarche pourrait donner un sens à votre vie. » Quand ce moment d'humeur fut passé, je pris conscience de la dimension inquiétante de cette lettre. Le soldat me signifiait que si son statut d'artiste n'était pas reconnu, il refuserait de rentrer aux États-Unis. En avait-il le droit? Heureusement, il me sembla que non. D'autre part, à partir de quel moment se considérerait-il comme un artiste reconnu? J'ai remarqué que les critères de reconnaissance varient formidablement d'un individu à l'autre. D'aucuns se tiennent pour des artistes reconnus si leur voisin de palier le leur a dit. Il en est pour qui, en deçà du prix Nobel, aucune reconnaissance n'est valable. J'espérais que Melvin Maple appartiendrait à la première catégorie. Moi qui avais d'abord pensé refuser sa demande, j'envisageais soudain la situation d'une manière plus amusante. En Amérique, je ne connaissais personne dans le milieu artistique. En Europe, je connaissais quelques galéristes à Paris et à Bruxelles. Les Parisiens seraient difficiles à ambiancer pour une pareille bizarrerie, ainsi que la plupart des Bruxellois. Mais je pensais à une vague galerie, plus parabière que galerie à la vérité, du quartier des Marolles, dont le patron était un copain et s'appelait Culus. Je lui téléphonai aussitôt en lui expliquant qu'il pouvait servir une cause importante. Un soldat américain basé à Bagdad faisait le contraire de la grève de la faim, disons la grève de la satiété, en protestation contre l'intervention militaire en Irak et considérait son obésité comme une sorte de body art engagé. Il ne manquait à sa reconnaissance que la caution d'une galerie d'art sur cette planète. Pure formalité, car il allait de soi, hélas, que le soldat ne pourrait s'exposer dans toute son ampleur à Bruxelles. Il avait besoin d'un nom de galerie à mettre sur son dossier, comme un écrivain a besoin du nom d'un éditeur pour se sentir exister. Culus accepta la proposition avec enthousiasme et me demanda de lui épeler l'identité du soldat pour l'ajouter à son catalogue. Je m'exécutai en réprimant une envie de rire parce que le catalogue en question était une ardoise sur laquelle la liste des bières était inscrite à gauche et la liste des artistes à droite. Culus me pria de lui envoyer une photo de Maple pour son book et nous prîmes congé. Enchantée, j'écrivis à l'Américain. Cher Melvin Maple, je ne connais pas de galeriste dans votre pays, mais j'en connais dans le mien. Excellente nouvelle! La célèbre galerie Culus de Bruxelles a accepté avec joie de vous inscrire à son catalogue. Je me doute qu'il vous sera impossible d'aller là-bas, même si Culus serait sûrement ravi de vous rencontrer et de vous exposer. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous pouvez à présent vous réclamer d'un galeriste, ce qui vous donne le statut officiel d'artiste. N'est-ce pas merveilleux? Vous allez pouvoir rentrer aux États-Unis la tête haute, sans rougir de votre obésité et même fière d'elle, puisqu'elle est votre œuvre reconnue. Je pense comprendre la difficulté, voire l'impossibilité du retour aux USA. Mais ce problème concerne désormais plus vos amis que vous. Je ne prétends pas que vous allez vivre en conte de fées. Il n'empêche que vous, vous aurez cette justification qui manque si gravement aux soldats dont vous m'avez parlé. Bravo! Amicalement, Amélie Nothomb, Paris, le 9/5/2009. Cette histoire me mit de bonne humeur. Je tiens à préciser qu'il n'y avait pas l'ombre d'un cynisme ni même d'une ironie dans ma démarche. Si Culus des Marolles n'était pas Perrotin du Marais, il n'en était pas moins un galeriste digne de ce nom. J'avais qualifié sa galerie de célèbre parce que, en effet, elle avait sa notoriété à Bruxelles. Et je ne trouvais rien de déshonorant au fait qu'elle vende d'abord de la bière. Il y a plus de buveurs de bière que d'acheteurs d'art contemporain, c'est ainsi. Pour ma part, quand je vais chez Culus, c'est pour sa blanche. Mais quand je la siffle, j'en profite pour regarder ce qu'il expose. Je contemple d'ailleurs avec d'autant plus d'intensité que j'ai du plaisir à boire. Je sais que toutes les autres galeries d'art considéreraient Culus comme un rigolo qui n'avait rien à voir avec leur confrérie. Ce n'est pas mon avis, et ce n'aurait sans doute pas été non plus l'avis de Melvin Maple. J'éprouvais donc le contentement de qui a mis en relation deux êtres faits pour se rencontrer. Soudain, je me rappelais que j'avais oublié un détail. Heureuse de ne pas avoir fermé l'enveloppe, j'ajoutais ce PS. Le galeriste Culus souhaiterait avoir une photo de vous telle que vous êtes maintenant. Envoyez-la moi, je transmettrai. Nous étions samedi. Je me hâtais de poster le pli avant la dernière levée de midi.